Je viens avec Afrim, bourré d'aspirine. Un dingue, go, oui, ma pince à vélo, je suis bidon.
Et voilà, donc avec tout ce que nous savons maintenant des techniques marketing des laboratoires pharmaceutiques, c'est donc les yeux fermés que nous allons gober nos pilules de Métakine. Métakine, c'est le titre du roman de François Rouillet qui est publié chez L'Atalante et qui nous entraîne avec lui dans les logiques des sociétés pharmaceutiques. Ces personnages sont joliment brossés et vous retrouverez, pour ceux qui le souhaitent seulement, François Rouillet est également un illustrateur de talent et donc vous pouvez retrouver les visages des personnages de son roman sur metakine.com puisqu'il a inventé tout un site avec un petit jeu pour piéger les journalistes. François Rouillet est suisse mais nous avons pu le rencontrer pour nous en dire un peu plus sur son roman très réussi. François Rouillet, donc vous venez de publier à L'Atalante un roman de science-fiction qui est intitulé Métakine, en deux volumes. Hein. Le premier s'appelle Métakine Indication et le second volume Contre-Indication, tout un programme. Donc en fait, il est question beaucoup de la place des laboratoires pharmaceutiques dans votre roman. Et vous êtes particulièrement bien informé puisque dans la vraie vie, vous êtes pharmacien.
Voilà, et une de mes fonctions en tant que pharmacien hospitalier, c'est de préparer ce qu'on appelle une commission, de documenter les travaux d'une commission qui s'appelle la commission des médicaments. Et pour notre collectif d'hôpital, nous devons choisir des médicaments pour différents usagers et on essaye de faire des choix les plus objectifs possibles pour avoir un assortiment de médicaments le plus rationnel et le plus efficace et le plus sûr possible. Et dans ce cadre-là, je suis confronté avec les publicités, les affirmations des laboratoires pharmaceutiques. Et il faut bien admettre que c'est pas toujours très transparent.
Alors, vous avez notamment dans votre roman des descriptions de réunions justement avec ces laboratoires pharmaceutiques, avec quelques personnages qui sont pas piqués des verres.
Oui, alors moi, j'ai personnellement jamais participé à ce genre de complot, mais j'ai essayé d'imaginer ce que pouvait être des réunions où l'on discute marketing et autres. Tout ce que l'on sait, en tout cas, c'est que le budget marketing souvent excède le budget recherche et développement, ce qui veut dire que énormément d'argent est mis dans les procédés de publicité, de propagande autour du médicament, ce qui est un peu paradoxal parce qu'on s'attendrait quand même à ce que ces firmes pharmaceutiques consacrent l'essentiel de leurs moyens à la recherche de nouvelles molécules intéressantes plutôt qu'à simplement essayer de vendre les quelques-unes qui leur semblent commercialisables.
Alors, il y a, dès la lecture de votre roman, en fait, une architecture très particulière. Vous passez d'un chapitre à l'autre, d'un point de vue des personnages. À chaque fois, c'est une sorte de polyphonie. Vous avez à chaque fois un point de vue de personnage. Alors, on n'est pas forcément tout le temps dans sa tête. Hein. Ça peut être son environnement immédiat. Vous passez un peu de l'un à l'autre avec une petite pirouette pour comme transition, comme si tous ces gens étaient connectés entre eux. Alors pour donner une idée du ton hein, sur lequel vous assez corrosif finalement dans lequel vous décrivez une société où les rouages sont bien huilés, mais la responsabilité n'est pas entièrement celle du laboratoire pharmaceutique. C'est-à-dire chaque acteur de la vie finalement se défausse et refile un petit peu la patate chaude à son voisin, que ce soit l'école, les fournisseurs de technologie, les parents d'élèves, les vendeurs de matériaux isolants. Alors je vous donne un petit exemple. Vous avez Ferdinand Glapier, qui est votre lanceur d'alerte, hein, qui essaye tant qu'il peut, sur un site internet intitulé Pilori Info, il essaye de mettre en garde les gens sur ce qui les attend. Et là, on a donc dans la voix de Clotilde, en fait, elle décrit ce Glapier. Un sacré visionnaire pour un mec. Son scénario de société, on est en plein dedans. Des menteurs patentés au pouvoir, des citoyens contents d'être bernés, des petits jeunes qui prennent la tangente pour échapper aux lâchetés adultes, tout y est.
Alors effectivement, les laboratoires pharmaceutiques sont peut-être coupables de parfois de manigances répréhensibles ou en tout cas contestables, mais la société auquel ils offrent leur panacée, elle l'est aussi parce qu'il y a une attente, il y a des espoirs, un imaginaire qui est placé dans le médicament et dans ses développements qui fait que tout un chacun a déjà une volonté, un espoir d'utiliser une drogue souveraine. Donc, en fait, les besoins du public rencontrent le merchandising des fabricants d'une façon quand même assez cohérente. Les deux acteurs sont dans la même pièce. C'est ce qui m'intéressait dans ce roman, c'était pas tellement de faire le procès d'un médicament particulier ou des fabricants de médicaments en général, mais un peu de mettre en place toute la machinerie, aussi bien du côté offre que du côté demande.
Alors, par rapport à ces logiques de merchandising, on pourrait penser que justement avec les lanceurs d'alerte, il y a un moyen de lutter contre ces agressions. Mais en fait, vous décrivez notamment ces jeunes qui se réunissent en conque. Alors, qu'est-ce que une conque ? Un agrégat d'humains formé spontanément, sans autre raison que de faire masse et d'occuper l'espace urbain. Ni manif, ni cortège, une conque apparaît comme elle se dissout, pour rien, un signe des temps, comme les bugs du net, une emprise du collectif sur le personnel, du réseau sur le local. Sociologie à bon marché, j'en conviens, mais tellement pratique pour s'extraire de la folie du monde et s'en croire préservé. Donc, est-ce que vous êtes aussi pessimiste concernant notre époque où les actions, surtout véhiculées par les réseaux sociaux, ont un petit côté un peu vain ?
Alors, du point de vue des lanceurs d'alerte, vous entendez. Alors, ça pourrait être effectivement des prêcheurs qui s'adressent, qui prêchent un peu dans le désert. Et souvent, ils sont pas entendus ou ces alertes ne sont pas prises en compte par le public. Maintenant, le phénomène des conques dont je parle dans mon livre ne concerne d'ailleurs pas que les jeunes, mais c'est une sorte de mise en place spontanée de mouvements de foule, de mouvements de sorte de manifestations sans but et sans raison, qui se met en place par simple agrégat. J'ai peut-être deux inspirations qui montrent un peu de quoi je me suis qui m'ont influencé dans la construction de ce concept de conque. C'est pour concrétion, pour concentration, c'est d'une part les effets biologiques de bande poisson ou vol des tourneaux, et puis donc quelque chose de très naturel finalement. Est-ce que l'être humain pourrait tout à coup basculer sous forme de foule dans un comportement de type collectif comme on le voit avec certains animaux? Pourquoi pas, ça fait peut-être partie d'une certaine évolution. Et puis, d'autre part, il y a un penseur qui est très intéressant de ce point de vue-là, c'est Elias Canetti, qui a écrit « Masse et puissance » et qui montre comment les foules se mettent en branle et comment il y a une sorte d'intelligence propre aux foules, comme si une entité supérieure se mettait à les diriger. Alors là, j'ai un peu dans le saut imaginaire que permet la science-fiction, conçu une société où ces phénomènes de masse se mettent spontanément en place, comme des folies collectives auxquelles il est très difficile de s'arracher une fois qu'on est contaminé. Et ça fait des groupements qui peuvent durer des heures, des jours, puis qui se dissolvent aussi spontanément qu'ils se sont constitués.
Un peu comme les Nuits debout actuellement à Paris.
Alors, j'ose espérer que les Nuits debout de Paris ont une raison et un but, alors que dans ma conception, parfois on se demande pourquoi ces agrégats se forment. Je les ai volontairement privés de raison d'être pour me concentrer uniquement sur l'effet du collectif pour le collectif.
Donc, je vous lis, François Rouillet, « Presque toutes les études que nous avons passées en revue il y en a que Globantis n'a pas sponsorisé, montre que la métaquine exerce un effet régulateur non seulement chez les écoliers souffrant de TDAH, mais aussi dans d'autres désordres neuropsychiques. Notre molécule pourrait soulager un éventail de pathologies beaucoup plus large que prévu, et pas seulement en pédiatrie. Donc là, on voit quand même ce rapport avec la Ritaline qui, aux États-Unis, a été prescrite de manière parfois abusive, c'est-à-dire que dès qu'un écolier était un peu turbulent, on considérait qu'il était hyperactif et ça s'est répandu comme une traînée de poudre.
Alors effectivement, la Ritaline est un médicament qui a inspiré l'invention de la métaquine dans mon roman. Mais je tiens à dire que je ne fais pas le procès déguisé de la Ritaline que j'ai voulu écrire. Simplement, c'est un exemple. J'aurais pu en prendre d'autres dans d'autres champs de la médecine, mais la Ritaline me semblait assez intéressante. Et selon les pays dans lesquels vous vous trouvez, vous avez un rapport à cette molécule qui est très différent. J'ai simplement expérimenté cela en assistant à deux salons littéraires récemment. Lorsque j'étais sur le salon de Paris et que je présentais mon livre, je disais aux personnes qui s'arrêtaient devant ma pile de livres, est-ce que vous connaissez la Ritaline? Et peut-être une personne sur cinq me disait oui, j'ai entendu parler. Lorsque j'étais à Genève, en Suisse donc, eh bien, je posais la même question et tout le monde savait de quoi on parlait. C'est vrai que en matière d'utilisation de ce médicament, il y a de grandes divergences d'un pays à l'autre. Les excès étant plutôt du côté des États-Unis, mais aussi du côté du Brésil, où il y a énormément d'utilisation de Ritaline, semble-t-il, de façon un peu abusive. Alors personnellement, pour clarifier les choses, je dirais que c'est un médicament qui est quand même a quand même fait ses preuves pour certains types de troubles de l'attention et d'hyperactivité, mais les études ont simplement démontré que ce médicament pouvait être utile pour un certain diagnostic bien précis et bien encadré, et aussi sur une période de traitement limitée. Il y a récemment eu des études, une méta-analyse Cochrane qui est ces méta-analyses étant un peu la référence en matière de consensus médical pour l'utilisation de médicaments ou de traitements divers. Et cette étude a démontré qu'il y avait un certain intérêt, mais que les évidences pour ce médicament restaient faibles et qu'il fallait de nouvelles études pour confirmer son efficacité. Ça, c'est pour la Ritaline. Donc, je pense qu'il y a des cas où le médicament est utile. Maintenant, lorsqu'on en prescrit à tort et à travers pour toutes sortes d'indications, où on commence à en prescrire aux adultes, où on commence à en prescrire pour toutes sortes de troubles de l'attention, jusqu'à l'élève simplement indiscipliné, là, il y a un phénomène de société qui se substitue aux indications proprement médicales et qui interroge quand même le citoyen sur l'utilisation des médicaments. Et c'est ça qui m'a intéressé. C'est quand le médicament dépasse son simple effet pharmacologique et qu'il devient véritablement une sorte de mythe ou de phénomène de société.
Oui, alors je vais vous lire François Rouillet. En fait, à un moment donné, vous expliquez que ce merchandising dépasse vraiment les bornes dans votre fiction. Donc c'est Globantis, c'est le nom de ce fameux laboratoire pharmaceutique. Et donc ces deux amis qui parlent, tu crois que les facs travaillent pour des prunes en toute neutralité? En sociologie ou en médecine, un tiers des doctorats sont financés par des fonds privés. Les universités sont à la botte des banques et des grosses firmes. Je parie que vos questionnaires ont été calibrés par le département marketing de Globantis. Ce n'est pas à une enquête scientifique que vous allez soumettre ces gosses, j'appelle ça une étude de marché. Ils sont idiots ou quoi? Ils ne comprennent pas que la partie est pipée. L'industrie pharmaceutique, mécène des gentils psychologues de l'OMSP, quelle arnaque! Ce n'est pas tant la manœuvre de Globantis qui me consterne que sa présence affichée. Avant, tout se passait en coulisses. Les instituts de recherche recevaient des dessous de table, les députés se faisaient graisser la patte en douce. Maintenant, les pharmas opèrent en terrain conquis et paradent sans vergogne au milieu de leurs pigeons. Vous allez imprimer leur logo sur tous les cartables?
Alors, effectivement, il y a dans ces affirmations peut-être un peu d'exagération romanesque, mais je me réfère, il y a une récente étude qui est parue, qui a été publiée d'ailleurs dans un journal de l'université de Lausanne, sauf erreur, Ouest de Genève, bref, une université suisse a un journal tout public dans lequel il publie des résumés d'études intéressantes. Et il y en a une qui a été faite récemment sur les moyens qu'utilise l'industrie pharmaceutique pour essayer de convaincre les médecins de prescrire leurs médicaments. Et en fait, la stratégie la plus répandue maintenant, c'est ce qu'on appelle la stratégie des leaders d'opinion. C'est-à-dire que les médecins n'ayant souvent pas le temps et parfois pas la volonté et parfois pas l'énergie nécessaire pour se documenter en profondeur sur chaque médicament qu'ils prescrivent, ils vont faire confiance aux représentants de leur discipline qui leur semblent dignes de foi. Donc ils vont aller à des conférences, à des congrès où s'exprime le spécialiste de leur discipline, la référence mondiale en matière de gynécologie ou de psychiatrie va s'exprimer sur tel médicament. Et ça, ce sont des cibles particulièrement intéressantes pour l'industrie pharmaceutique. Et il est vrai que certains de ces leaders d'opinion sont quand même un peu à la botte de l'industrie et se laissent peut-être influencer. D'autres sont plus honnêtes et plus indépendants. Mais c'est un canal de publicité incontestable pour les firmes pharmaceutiques.